messieurs, cher public, si les inscriptions de Delphes ont permis d'éclairer maints aspects de la vie culturelle athénienne dans la seconde moitié du IIe siècle, en montrant aussi de quel prestige jouissait la cité auprès des autres peuples de l'Amphictyonie, à commencer par les Delphiens eux-mêmes, l'apport des inscriptions de Délos à la connaissance de l'histoire économique et sociale d'Athènes durant la même époque est encore plus considérable. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'une épigraphie étrangère, mais d'une section, pourrait-on dire, de l'épigraphie attique. Du point de vue qui est le nôtre, il existe néanmoins quelques analogies entre Delphes et Délos. Les deux sites, tout d'abord, compte au nombre des principaux sanctuaires d'Apollon dans le monde grec, et pour les Athéniens, ils étaient certainement les plus importants, venant bien avant ceux de Claros, de Didyme, les deux oracles situés dans cette terre d'Ionie, dont Athènes se prétendait la métropole. Le dieu très véridique qui s'y manifestait inspirait certainement une grande vénération aux Athéniens, mais le site oraculaire de Delphes leur était tout de même bien plus familier. Au début du IVe siècle, comme le souligne Mme Véronique Shankovsky dans sa thèse récente, ils paraissent d'ailleurs, les Athéniens, s'être inspirés du modèle delphique en établissant à Délos une amphictyonie, certes bien différente de l'autre, et en créant un collège de naopes, ou constructeurs du temple, comme il en existait un, alors très actif à Delphes. Chez eux, comme à Délos, ils favorisèrent le culte d'Apollon Pythios. Un Pythion est de fait bien attesté par les inscriptions déliennes, même si la localisation de ce sanctuaire au cœur de celui d'Apollon a été laborieuse. Enfin, lorsque les Athéniens redevinrent maîtres de l'île de Délos en 167, ils eurent à cœur d'y honorer le dieu de Pytho, c'est-à-dire de Delphes, puisqu'une inscription d'Athènes, brisée en de nombreux fragments, je ne montre ici qu'un tout petit début à travers l'ouvrage de Philippe Bruno, cette inscription a conservé la liste développée des Pythaïdes que, vers 100 avant Jésus-Christ, la cité envoya à Délos. Autrement dit, non contente d'envoyer de telles processions à Delphes, à partir de l'année 138, on s'en souvient, ils voulurent renforcer les liens entre les deux sanctuaires d'Apollon en faisant parvenir régulièrement à Délos une procession dite, elle aussi, Pythaïde. Sur un tout autre plan, et secondaire, certes, puisque moderne, mais pas négligeable pour autant, un nouveau lien s'est établi entre Delphes et Délos par le biais de l'archéologie et de l'épigraphie. En effet, quand l'école française d'Athènes entreprit en 1892 la grande fouille de Delphes avec des fonds publics, elle avait déjà en chantier depuis plusieurs années l'exploration de Délos, financée, elle, par un généreux mécène, le duc de Luba, dont le nom figure encore, ou figurait, figure toujours, je crois, sur les volumes de la publication. Certains savants français furent ainsi amenés à travailler concurremment sur les deux sites. Ce fut le cas en particulier de l'un des directeurs de l'époque, Théophile Homol, très présent à Delphes, même un médaillon de bronze en témoigne à l'entrée du musée, et pas moins actif à Délos. Vers la fin du XIXe siècle et début du XXe, chaque livraison du bulletin de correspondance hellénique, le périodique de l'école, contenait donc autant d'inscriptions de Delphes que d'inscriptions de Délos. Elle s'offrait annuellement à la curiosité des épigraphistes et des historiens de toute nationalité. À la veille de la Première Guerre mondiale, les textes d'Héliens constituaient déjà un ensemble très considérable. Aussi, l'Académie de Berlin exprima-t-elle le vœu et obtint des autorités archéologiques françaises que ces documents dispersés fussent réunis au plus tôt dans une nouvelle section pardon, des Inscriptiones Graecae, le tome 11, entièrement consacré à Delos. Le quatrième fascicule de cette série parut à la date fatidique de 1914 et ce fut le dernier. D'autres érudits s'étaient empressés d'exploiter cette manne à des fins d'histoire. Ce fut le cas très précocement de l'Américain William Scott Ferguson, ici c'est la page de titre d'une réimpression, qui dès 1911, dans Hellenistic Athens, put donner un aperçu assez développé du statut de la population de Delos sous la domination athénienne, en essayant même de tirer parti des informations que livrait la fouille française sur l'architecture domestique et sur l'urbanisation de l'île à cette époque. Il faut néanmoins préciser que seul un tiers du chapitre intitulé « Athens and Delos » est réellement consacré aux choses d'Hélienne, le reste étant dévolu à l'histoire générale de la cité athénienne durant la seconde moitié du IIe siècle. Du côté français, quelques publications ont rapidement fait date. Dû à Pierre Roussel et aussi à Félix Durbac, qui collaborait étroitement. Le premier est l'auteur d'une thèse fondamentale, Delos, colonie athénienne, en 1916, base de toutes les études postérieures sur ce thème. Le second publia en 1922 un très utile choix d'inscription de Delos, qui a d'ailleurs été réimprimé, comme la thèse de Roussel d'ailleurs. Ce sont du reste ces deux savants qui lancèrent en 1926 la série des inscriptions de Delos. Attendez, petit problème, voilà, c'est cela. Des inscriptions de Delos qui étaient destinées à prolonger sous une autre forme l'entreprise franco-germanique interrompue par la guerre, réunissant donc en plusieurs fascicules près de 2000 inscriptions. Dans sa récente synthèse, Athènes hellénistique, le livre bleu, Christian Habicht a su exploiter au mieux cette documentation exceptionnellement étendue et toutes les études qu'elle avait suscitées dans l'intervalle, afin de donner un tableau bien à jour intitulé « La Delos athénienne », en tout cas dans la version française de son livre, et subdivisé en trois sections qui sont à la fois thématiques et chronologiques. Car, en dépit d'une relative stabilité, la situation de l'île n'a cessé d'évoluer et sa population de croître, de se diversifier pendant les trois quarts de siècle qui vont de la mainmise de 167 à la guerre mithridatique du début des années 80 avant Jésus-Christ, laquelle fut aussi catastrophique pour Athènes que pour Delos. C'est donc cette synthèse que je prendrai tout naturellement comme fondement, mais en la mettant à l'épreuve de travaux plus récents, même très récents, ceux du moins dont j'ai eu connaissance, sans être moi-même, tant s'en faut, spécialiste de l'épigraphie et de l'archéologie d'Hélienne. Il s'agit de rappeler tout d'abord comment l'île fut administrée par les Athéniens, puisqu'ils en étaient les maîtres sous le haut patronage de Rome. Je commence par une institution qui s'est maintenue sans modification notable durant toute cette période, et même au-delà d'ailleurs. C'est la magistrature la plus élevée que l'on rencontre dans nos documents. Le préposé à l'administration de Delos, au Epimeletes, Endelo, comme on lit sur cette empreinte de sceau. Le titre est intéressant dans la mesure où il se distingue de celui que l'on connaît pour d'autres îles sous domination athénienne, à Lemnos en particulier, nous avons vu à travers le décret de Myrina, pourtant contemporain, que les magistrats envoyés dans cette île avaient un caractère militaire, stratégos eis lemnon, hipparchos eis lemnon. Si tel n'est pas le cas à Delos, c'est que l'île était depuis longtemps démilitarisée, si l'on peut dire. S'il y avait lieu d'intervenir par la force, l'Épiménète lui-même prenait ses ordres des stratèges. Au surplus, l'armée athénienne n'aurait rien pu entreprendre dans l'île sans l'aval du Sénat romain. Mais que sait-on de ce magistrat ? Dès avant sa synthèse de 1995 ou 2000 pour l'édition française, Habicht avait fait le point là-dessus dans le périodique allemand Hermès de 1991, article où il complétait notamment la liste des quelques 45 épimélètes connus de Pierre Roussel pour la période en question, en y ajoutant une demi-douzaine de noms. L'ajout le plus intéressant est celui que fournit un décret qui était resté inédit et dont Habicht lui-même n'avait qu'une connaissance indirecte. C'est le décret des Athéniens de Délos, déjà plusieurs fois allégué ici, qui honore en 146 l'épimélète Ophélas, fils d'Abron, édité en 1998 par Jacques Tréheux, qui en était l'inventeur, mais était alors décédé, et par son collègue Pierre Charneux. C'est dans cette publication que l'on trouve l'étude la plus à jour, jusqu'à nouvel avis, sur l'épimélète de Délos. Elle apporte d'ailleurs aux travaux antérieurs une confirmation particulièrement éclatante, en montrant d'abord que les Athéniens désignés à cette haute fonction, les catastatentes, catastatès ici, étaient issus des familles les plus distinguées de la cité. Ce que Roussel n'avait pas manqué de noter déjà, et ce que Habicht avait achevé de démontrer par la mise en évidence de plusieurs cas exemplaires. L'épimélète de l'année 147-6 appartient en effet à une lignée d'aristocrates dont un ancêtre tout à fait avéré, est l'illustre Lycurgue contemporain d'Alexandre et de Démosthène. Il est clair aussi que ces épimélètes devaient avoir, comme tous les hauts magistrats de l'époque, d'assez gros moyens, car on attendait beaucoup d'eux. Ophélas se montra certainement à la hauteur des espérances placées en lui, puisqu'il accomplit plusieurs choses, ectone, idione, comme on le voit à la fin des considérants. Mais je n'insiste pas sur ce point relativement banal, qui découlait déjà des dédicaces émanant d'autres épimélètes de l'île. Ce que révèle le nouveau décret, qui est effectivement seul de son espèce, c'est que ce haut commissaire athénien exerçait une véritable magistrature à laquelle étaient soumis tous les organes politiques en fonction dans l'île. Car c'est lui qui, à son arrivée à Délos, procédait à l'investiture des autres magistrats. Ten, ton, archonton, katastasin, et poiesato, comme dit le décret, et qui prononçait lors de tous les sacrifices publics les vœux d'usage pour la santé du peuple des Athéniens, de leur famille, sans oublier à cette date les amis et alliés, philoi kai summakoi, c'est-à-dire en premier lieu les Romains, comme on l'avait vu la semaine dernière à propos du décret attique trouvé à Styris de Phocide. La seconde partie du décret pour Ophélas ne laisse du reste planer aucun doute sur le fait que ce personnage était dans l'île le répondant de la cité d'Athènes vis-à-vis des Romains, c'est-à-dire du Sénat et des commissaires en Grèce, fort nombreux en cette année-là, qui fut des plus agitées, l'année 146. Au point de vue des institutions, l'intérêt du décret réside également dans le fait qu'il émane de la communauté des Athéniens de Délos, exactement de ceux qui se désignent comme Athénaïon oi katoikountes en Délo. Formule déjà connue, avec diverses variantes, dont les plus complètes caractérisent cette communauté comme formant un peuple, on l'a dans un autre décret ici, odemos o Athénaïon ton en Déloi. Le participe pouvant faire défaut à l'occasion sans que soit affecté le sens général de la formule. Il s'agit donc d'Athéniens domiciliés dans l'île par rapport à ceux qui ne seraient que de passage. Athénaïon oi par epidemuntes, ces propriétaires du sol, qui seuls, on voit au chapitre, du moins à l'époque où nous sommes, sont ceux que l'on appelle les clérouques. L'appellation est usuelle, générale, depuis l'ouvrage fondateur de Roussel. Si elle ne se trouve pas encore, et pour cause, chez Ferguson, elle a été adoptée aussi par Habicht dans une section du chapitre sur Délos qui s'intitule justement la clérouquie. On peut se demander toutefois si cet usage moderne s'impose réellement, puisque le terme de clérouquoi, clérouquos, ne se trouve pas dans les documents des liens de cette époque. Les clérouques sont en principe des citoyens qui reçoivent un lot de terres hors de l'Attique en contrepartie de leurs obligations militaires. Or, dans la Délos, colonie athénienne, il n'y a pas de garnison. Certes, les colons athéniens ont profité du fait que les anciens habitants de l'île avaient dû s'expatrier, comme on l'avait vu, dès après 167. Mais rien n'indique en réalité que ces Athéniens domiciliés à Délos, katoikountes en Délo, aient tenu leur propriété de la cité. On avait vu que dans le cas de Myrina et d'Ephaestia de Lemnos, l'étude de Nicoletta Salomon sur les clérouquies athéniennes en général, invitait à renoncer à ce terme de clérouque pour désigner les Athéniens installés à demeure dans l'île de Lemnos. Or, la chercheuse italienne, qui ne s'est pas intéressée beaucoup au cas d'Élien, a noté au passage tout de même que le terme de clérouque lui paraissait là aussi à éviter. Mais cette observation datant de 1997 paraît n'avoir eu jusqu'ici qu'un très faible écho parmi les spécialistes de Délos. Il me semble pourtant que l'on s'expliquerait mieux l'évolution des choses en renonçant à voir dans la communauté des Athéniens de Délos un groupe de citoyens jouissant d'un statut particulier. S'il n'y a plus de véritable clérouque, le partage progressif du pouvoir dans l'île avec d'autres groupes d'habitants apparaîtra comme un phénomène d'élargissement plus naturel. En effet, jusqu'ici, on a considéré que l'époque de la clérouquie athénienne, au sens strict du terme, avait pris fin vers 140, une génération après la mainmise sur l'île. Car en juger par les dédicaces publiques postérieures à ce tournant, puisqu'après, il n'y a plus, à ce moment, il n'y a plus de décret, on a affaire à une communauté plus cosmopolite. Au groupe des citoyens athéniens résidant à demeure dans l'île sont venus s'adjoindre d'abord, ainsi que quelques documents l'attestent aux alentours de 130, les Romains de passage à Délos. Vous avez ça dans votre dossier, sauf erreur. Romaion oi par epidemuntes. Puis, vers 125, s'ajoutent encore les autres étrangers résidant de passage. On le voit par exemple alon, ton alon xénon, avec des variantes qui font une place parfois aux négociants et armateurs ayant débarqué dans l'île, oi catapléontes eisten, je ne sais pas si j'ai l'image ici, non. Oi catapléontes eistenneson emporoi kai nocleroi. Les formules utilisées sont désormais très souples car cette communauté est mal définie. La résidence même n'apparaissant plus comme une condition sine qua non pour en faire partie, dans le cas des Athéniens comme dans celui des étrangers. C'est ainsi qu'une dédicace de l'an 123 émane des Athéniens établis ou séjournant à Délos, des Romains, dont on ne dit pas s'ils sont établis ou de passage, et autres étrangers. Cette communauté des plus composites ne forme pas un démos, comme c'était le cas naguère de la communauté des colons athéniens. Ce n'est plus une cité en miniature, comparable à un dème de l'Attique. D'ailleurs, on n'entend plus parler alors d'une boulée et d'une ecclésia, d'un conseil et d'une assemblée du peuple fonctionnant sur le modèle des organes de la métropole, avec une rotation des 12 tribus et un calendrier britannique. De l'ancienne forme de gouvernement ne subsiste qu'un certain nombre de magistratures. Outre l'épimélète lui-même, qui n'a jamais été élu par la communauté locale, mais qui est désigné, on l'a vu, par la cité d'Athènes, on connaît notamment des collèges en relation avec l'activité commerciale. Dès après 167, les Athéniens avaient créé un collège de 3 épimélétaï, tout emporiou, de préposés à l'administration du port marchand où se faisaient toutes les transactions. La localisation, la localisation de cet emporion peut aujourd'hui être déterminée avec plus de précision. On connaît depuis longtemps un décret de l'année 145 en l'honneur de ces magistrats, celui que vous avez sous les yeux, qui prescrit d'afficher la stèle dans le bureau, to archeion, de ces épimélètes. Or, cette pierre a été trouvée au nord-ouest du portique de Philippe, qui est là, vers le bas, sur le flanc occidental, maritime, du sanctuaire d'Apollon, précisément du sanctuaire d'Artémis. Cet emplacement est précisé dans un document qui n'a été rendu public qu'en 1997 et qui ne paraît pas depuis lors avoir été exploité sur le plan topographique. C'est le décret pour le gymnasiarque Pausanias en l'an 157 que nous avons examiné l'an dernier déjà. À ce bienfaiteur, en effet, est accordé une statue qui, au lieu d'être dressée dans le gymnase, comme c'était naturel, lequel était situé un peu à l'écart de la grande circulation, est accordée une statue qui prend place près de l'archéion, de nouveau, ton epimeleton tou emporiou, qui devait donc se trouver à un endroit bien en vue, puisque l'on précise que la statue sera à main gauche pour ceux qui montent, autrement dit, ceux qui viennent du côté de la mer. Anabainonton, Aristeras, Keiros. Cette voie de passage est parfaitement localisable à l'extrémité nord du portique de Philippe. L'Emporion, donc voilà le passage, et l'Emporion devait nécessairement se trouver à proximité du local affecté au travail de ces magistrats. Mais il ne faut pas sans doute le chercher sur le rivage qui s'étend immédiatement devant la voie de passage. Car dans une contribution à un ouvrage collectif paru l'an dernier sur les structures et équipements des marchés antiques, une spécialiste de l'archéologie d'Hélienne, Mme Claire Hinsnor, montre, sans faire état d'ailleurs du nouveau décret, que l'Emporion se trouverait vraisemblablement au sud de la nouvelle agora des Compétaliastes, à l'emplacement de magasins qui s'échelonnent sur le front de mer, on le voit ici. De ces entrepôts provient en effet une série d'une demi-douzaine de tables de marbre avec une cavité pour la mesure de liquide ou de céréales que l'on appelle sécomata. L'un d'eux, d'ailleurs, n'a été découvert qu'en 2006. Or, tous ces objets ont été dédiés vers l'an 100 avant Jésus-Christ par un seul et même épimélète de l'Emporion nommé Ariarathès. Le nom est remarquable, mais ce ne saurait être ici le roi de Cappadoce Ariarathe V dont on avait traité précédemment. Selon l'archéologue française, cette consécration en série d'objets utilitaires pourrait être mise en relation avec une réforme des poids et mesures que fait connaître une célèbre inscription d'Athènes sur laquelle nous reviendrons à l'occasion du séminaire de M. Charles Doyen. L'épigraphie de Délos de l'époque athénienne témoigne également de l'existence, à côté de ses préposés à la surveillance de l'Emporion, d'un collège d'agoranomes, magistrature beaucoup plus largement répandue dans les cités grecques et qui existait à Délos dès l'époque de l'indépendance, donc avant 167. Deux décrets du milieu du IIe siècle ont en effet été votés pour des agoranomes. Leur lieu de trouvaille, combiné avec d'autres indices, a tout récemment permis à des spécialistes de l'architecture délienne, dont on trouvera l'étude dans le volume qui vient d'être cité à propos de l'Emporion, de localiser l'agoranomion en bordure de l'agora maritime, dite agora de Théophrastos, elle-même toute voisine, il est derrière, du sanctuaire d'Apollon. L'importance qui s'attachait aux fonctions de ces agoranomes découle déjà du fait que si les Athéniens de Délos avaient la possibilité de voter des honneurs aux plus méritants d'entre eux, ils ne pouvaient le faire qu'après validation du décret par l'Assemblée athénienne, comme le montre sans ambiguïté un de ces décrets, celui que vous avez dans votre dossier, le choix numéro 83. Les agoranomes qui officiaient annuellement à Délos, étaient du reste donc élus à main levée à Athènes, comme les autres magistrats de la cité. Et c'est à Athènes qu'ils devaient rendre leur compte au terme de leur mandat, même si, on le voit aussi ici, une copie des logoi, des comptes, était déposée au Métroon, sanctuaire de la grande mère des dieux, à Délos même. Cette exigence suffirait à prouver, si besoin était, qu'ils avaient à manier des fonds, car partout ils prélevaient des taxes sur les transactions et infligeaient des amendes. C'est l'occasion de signaler la parution d'un ouvrage collectif consacré à ces magistrats, de même qu'à leurs homologues romains, les édiles. Agoranomes et édiles, institution des marchés antiques, volume publié par les soins de Laurent Capdetraye, vous le voyez, et encore Claire Asnor, 2012. Si aucune des contributions ne porte spécifiquement sur l'agoranomie délienne, plusieurs en font mention. C'est ainsi que Graham Oliver, dans une étude sur l'agoranomie athénienne, commente l'un de nos décrets, dont il fournit une traduction anglaise. Les éditeurs du volume, quant à eux, attirent l'attention sur le mode de désignation du collège des agoranomes, ou plutôt, plus spécialement, du secrétaire de ce collège, au grammateus ton agoranomon, inconnu partout, sauf précisément à Délos, à l'époque athénienne. Autre chose remarquable, il n'était pas élu, lui, mais il était tiré au sort, clérotos, comme cela ressort d'une dédicace émanant de l'un d'entre eux, qui n'est d'ailleurs autre que le secrétaire en fonction dans l'un de nos deux décrets pour les agoranomes. Cela ne signifie certainement pas que sa charge était insignifiante. On peut présumer en effet, j'ajouterai personnellement, que le tirage au sort, procédé démocratique par excellence, se faisait au sein d'un groupe de citoyens présélectionné ex procrito. Avant de quitter ce volume, où il y a beaucoup de choses à glaner, relevons encore une contribution due à un jeune historien, Jean-Michel Roubineau, qui fait ressortir la sévérité, voire la cruauté, à en croire du moins le sophiste Alciphron dans l'une de ses lettres fictives, dont pouvaient faire preuve les agoranomes dans l'exercice de leurs fonctions, à commencer, ce qui les rendait évidemment redoutable pour les commerçants peu scrupuleux, à commencer par les marchands de poissons. Si l'on revient à nos deux décrets d'Élien, on notera que dans le plus ancien, datant des alentours de 150, les agoranomes sont encore au nombre de, c'est toujours le même décret, sont encore au nombre de 3, comme à l'époque de l'indépendance. Les Athéniens ont donc adopté sur ce point la tradition locale, plutôt que d'instituer un collège qui, en comptant 12 membres, comme à Athènes, eût été nettement surdimensionné. Mais à partir d'une certaine date, située vers 148, comme en témoigne le second décret, c'est celui-ci, on en élit plus que 2, mais toujours avec un secrétaire. Or, le nombre des épimélètes de l'Emporion passera lui aussi de 3 à 2, puis à un seul, dans les dernières décennies du IIe siècle. Comment rendre compte de cette réduction progressive? Imaginez que cela témoignerait d'un ralentissement de l'activité portuaire et commerciale serait une hypothèse bien paradoxale, puisque Strabon, dans sa fameuse évocation de la délos athénienne, on avait donné ce texte, je le redonne ici, fait plus que suggérer que la destruction de Corinthe, en 146, imprima un nouvel élan à l'Emporion de Délos, promu au rang de premier port de transit de la mer Égée. Mouvement que dut encore accentuer, comme l'ont noté les historiens modernes, car sur ce point, les sources antiques sont muettes, la création de la province romaine d'Asie en 129, au sortir de la longue guerre dite d'Aristonikos, menée par Rome dans l'ancien royaume de Pergame, après la mort du dernier souverain Attalide en 133. Il faut donc chercher ailleurs la raison de cette réduction de l'effectif des collèges athéniens dévolus au contrôle de l'activité commerciale. Pierre Roussel avait suggéré une explication intéressante, et l'on ne peut faire mieux que de le citer. Évoquant cette attitude de repli, au moins apparente, de la part des Athéniens, l'auteur de « Délos colonie athénienne » écrivait « Je croirais volontiers que des représentants des colonies, entendons des communautés romaines et étrangères, sans titre officiel, jouèrent un rôle à côté des magistrats athéniens et les supplantèrent peu à peu. Nous ignorons tout, ajoutait-il, de l'organisation du port franc, mais il n'y a point un grand abus d'hypothèse, formule est jolie, qu'auprès de l'épimélète unique et des deux agoranomes, des consuls commerciaux veillaient à assurer le bon ordre du trafic où l'intérêt commun était engagé. » Fin de la citation. Cette tentative n'a pas entièrement convaincu les spécialistes actuels de Délos, et leur scepticisme est en partie justifié par l'absence de témoignages sur ces fonctionnaires étrangers, c'est-à-dire romains ou orientaux, qui auraient côtoyé, à partir d'une certaine date, les magistrats athéniens. Il n'empêche que l'évolution est patente. Personne ne conteste, du reste, qu'il y ait, après 146, un fort accroissement de la population d'origine étrangère, hellénique, non-hellénique, au détriment de la communauté de souche athénienne. Y eut-il, à un moment donné, qui serait à situer quelques années après le séisme provoqué par la destruction de Corinthe, une réforme d'ensemble de l'administration locale qui aurait mis fin brutalement à la suprématie de ceux que l'on a désignés jusqu'ici de façon peut-être un peu trompeuse sous le nom de Clérouc, réforme qui aurait ouvert toute grande la porte du pouvoir aux autres groupes de résidents en leur donnant accès du même coup à l'éphébie, comme on le verra tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que la souveraineté politique des Athéniens, représentée par leur épimélète, n'a pas été mise en question. Dès lors, et jusqu'à plus informer, il paraît préférable de voir dans cette évolution une succession assez rapide d'aménagements partiels qui commençaient sans doute un peu après 146, durent aboutir en une vingtaine d'années tout au plus à la situation nouvelle que l'on observe à partir du dernier quart du IIe siècle. Avant d'en venir à l'éphébie telle qu'elle était organisée à Délos sur le modèle athénien, mais avec des caractéristiques propres. Il faut dire quelques mots de ces groupes de xénoï, de ces communautés étrangères qui ont joué un si grand rôle dans le développement de l'île. La plus importante, ne serait-ce que par son poids politique, est bien sûr celle des Romaioi. Sous ce terme très valorisant, se cache en fait, comme on l'a reconduit de longue date, une population assez hétérogène. Les Romains de souche sont là très peu nombreux, sinon même absents. Sauf exception, les Athéniens de Délos ne côtoyaient pas les membres des familles qui fournissaient à la République romaine la plupart de ces magistrats, tous ces sénateurs auxquels les Athéniens réservaient un accueil plus ou moins grandiose et auprès desquels, plus souvent encore, elle envoyait des ambassades à Rome même. Ces membres de la nobilitas n'apparaissent guère que dans des dédicaces en rapport avec les grands événements, avant tout ceux du début du 1er siècle. Relevons cependant sur une base de statut, une dédicace intéressante, des marchands d'huile italiens, les Olearii, pour Gaius Julius César, père du dictateur, et proconsul d'Asie entre 99 et 89. Ce personnage paraît en effet avoir été impliqué dans l'aménagement de l'Emporion. Pour le reste, les Romains que l'on trouve à Délos sont essentiellement, on le sait, des hommes d'affaires, des negotiatores, qui se livraient aux activités du grand commerce et surtout de la banque. Or, justement, ces métiers-là étaient en principe interdits aux membres du Sénat, parmi lesquels se recrutaient les titulaires de toutes les hautes magistratures, celles du cursus honorum. D'autre part, ces Romaioi à Délos, comme ailleurs, sont le plus souvent originaires de l'Italie méridionale. Ils n'ont acquis la citoyenneté romaine qu'avec la conquête de la péninsule, et, ou même plus récemment encore. Cela est bien connu depuis la thèse déjà ancienne de Jean Hatzfeld en 1919, les trafiquants italiens dans l'Orient grec. La communauté des Italiens de Délos n'en constitue pas moins un groupe très important auquel on ne cesse de consacrer des études particulières ou générales, qui prennent appui sur une documentation qui, dont il n'a sans doute pas l'équivalent ailleurs, tant sur le plan épigraphique que du point de vue archéologique. Car on sait que ces négociatores ont laissé dans le paysage des liens une marque très profonde en réaménageant pour leur usage propre des secteurs entiers du tissu urbain, comme l'agora dite des hermaïstes ou des compétaliastes, un nom bien latin qui n'apparaît pas ici, ou celle que, numéro 52 sur ce plan, celle que l'on désigne sous le nom de agora des Italiens, précisément. Ce nom lui vient en partie d'un des monuments qui se dressait en bordure de la place dans l'une des loges construites à l'ouest. La statue de marbre de Gaius Ofelius Ferus, qui présente pour nous le très grand intérêt d'être une œuvre non seulement bien conservée, il nous manque la tête, certes, mais signée et donc datable. En effet, son socle considérable porte une dédicace à Apollon doublement instructive, conçue selon le type grec et du reste entièrement rédigée en grec. Elle émane cependant des Italicoi, Italicoi, vous le lisez, c'est-à-dire de la communauté italique tout entière, sans distinction de statut ou d'origine sociale. Alors que l'appellation Romaioi implique en principe qu'il s'agit d'hommes libres, bien souvent de simples affranchis, assurément, et jouissant de la civitas romana. Mais ces Italiens ou Italiques ont fait appel à deux artistes athéniens, Dionysios et Timarchides, qui appartenaient à une même famille de Torikos dans le sud de l'Attique et qui travaillaient peut-être à ce moment-là à Délos. En tout cas, ce sont des sculpteurs assez connus jusqu'à Rome et dont l'activité se situe dans les dernières décennies du IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que le personnage statufié, lui, est toujours inconnu par ailleurs, sauf omission de ma part. En dépit du fait qu'il avait certainement exercé une fonction importante dans l'île, puisque l'on a tenu à rendre hommage à sa dikaiosune, vous le voyez, son sens de la justice, c'est une vertu qui est louée depuis longtemps chez les magistrats évergètes, et de sa philagatias, etc., sa bonté, une notion plus floue et dont les attestations sont du reste nettement moins anciennes. On comprend donc que cette statue n'ait cessé de retenir l'attention des archéologues, naguère encore en 1991. Elle a fait l'objet d'une étude véritablement exhaustive de la part de mon collègue de l'École des hautes études et d'abord camarade athénien, François Kerel, excellent connaisseur de la sculpture hellénistique. Beaucoup d'autres statues de Romains ou d'Italiens bienfaiteurs devaient se dresser dans l'île, mais peu ont échappé aux injures du temps, nombre d'entre elles ayant dû être abattues très tôt, dès l'attaque des forces pontiques en 88 avant Jésus-Christ ou celle des pirates 20 ans plus tard. On lira tout à l'heure au séminaire un long décret voté pour un banquier italien, Marcus Minatius, dont la générosité méritait d'autant plus d'être soulignée qu'elle n'était pas forcément la caractéristique principale des gens de sa profession. Je ne parle évidemment que des banquiers romains. Or, il n'en reste rien de cette statue, pas même le socle, sans parler du portrait peint, qui fut octroyé à ce personnage. Et l'on verra que l'inscription même qui nous informe de son existence n'est parvenue jusqu'à nous qu'au terme d'une bien étrange aventure. Il faut donc, comme toujours, faire la part très grande à notre ignorance. Mais ce n'est pas une raison, bien au contraire, pour ne pas étudier le peu qui nous reste. Sur ces Romains de Délos, on peut renvoyer plus généralement au volume collectif paru il y a une dizaine d'années, en 2002, sous le titre « Les Italiens », voilà la statue encore reconstituée par Kerel, avec la base, je vais dans le mauvais sens apparemment. Voilà. Ce volume, les Italiens dans le monde grec, qui est les actes d'un colloque organisé 4 ans plus tôt sous la direction de nos jeunes camarades Christelle Muller et Claire Azenor encore. Car en dépit de son titre assez général, il s'agit en réalité d'un ouvrage centré sur Délos, comme le révèle d'emblée sa page de couverture, où se dessine en arrière-plan une ancienne carte de la mer Égée, centrée sur Délos, celle qui accompagnait la publication par l'abbé Barthélemy du fameux voyage en Grèce du jeune Anacharsis, tandis que l'inscription qui se profile au premier plan est celle, très célèbre, mais pas moins intéressante pour autant, que porte le socle de la statue perdue de Lucius Munatius Plancus, avec une dédicace latine très remarquable, émanant des Italiens et des Grecs qui font le négoce à Athènes. Italicae et Graecae quae deli negociantur. Ce dernier mot étant gravé, vous l'avez vu, vous le voyez dans votre dossier, en caractère plus grand. Preuve que ces hommes d'affaires, tels nos modernes chevaliers d'industrie, ne répugnaient nullement à dire le motif de leur présence dans l'île Sainte. C'était pour y faire du grand négoce, bien plutôt que des dévotions à l'Apollon d'Élien ou à quelque autre des innombrables divinités qui lui faisaient alors concurrence de tous côtés. Les éditrices du volume expliquent en effet, dans leur introduction, que la genèse du livre a été une étude de caractère prosopographique sur les carrières de tous les Italiens attestés à Delos, et de fait, l'ouvrage se termine par un répertoire très utile de ces Romaioi, ou Italicoi, à l'élaboration duquel a contribué notre confrère Jean-Louis Ferrari, très bon connaisseur des relations entre Rome et le monde grec. On trouve du reste dans le corps de l'ouvrage plusieurs études de cas, ainsi sur l'une des Gentes d'origine campanienne, les mieux attestées à Delos, celle de Marcus Seius, exemple assez typique de ces membres de l'ordre équestre, qui, à la différence des sénateurs, pouvaient, sans encourir de discrédit moral, s'activer à plein dans le monde des affaires à l'échelle méditerranéenne. On sait que l'une des branches les plus rentables de ce grand négoce était le commerce des esclaves, dont Delos a peut-être été la plateforme. Il est hautement significatif que le colloque qui fut à l'origine de l'ouvrage dont nous parlons ait visé, au témoignage des éditrices encore, à parvenir, je cite, à une sorte de réconciliation après les affrontements des années 1980 sur les esclaves à Delos. Que l'on se rassure tout de suite, je ne vais pas entrer dans ce débat quelque peu dénaturé par les présupposés idéologiques des uns et des autres. Il m'importe seulement, de peur de me voir reprocher de donner un tableau par trop idyllique de la prospérité d'Hélène sous le double patronage d'Athènes et de Rome, de rappeler l'observation faite par Strabon en un tout autre contexte que la description de Delos au livre 10. En traitant en effet au livre 14 des guerres dont la Cilicie, au sud de l'Asie mineure, était le théâtre, le géographe note que par le biais d'une piraterie endémique, l'exportation des esclaves y avait pris des proportions inouïes jusque-là, au point que ces 10 000 esclaves qui pouvaient être négociés quotidiennement sur la place de Delos, les marchands occidentaux venant s'y approvisionner pour satisfaire les nouveaux besoins des Romains en main-d'œuvre servile. Il ne s'agit certes pas de récuser la valeur de ce témoignage qui, à défaut d'être direct, s'appuie apparemment sur de bonnes sources du début du premier siècle. Je dirais simplement, au risque d'être taxé d'une vision trop indulgente ou d'aveuglement par les plus ardents pourfendeurs de cette vision justement trop indulgente de l'esclavage antique, que le chiffre lui-même ne m'a jamais paru vraiment crédible. Une telle concentration d'esclaves, même seulement en transit, eût posé en effet dans cette petite île de tels problèmes d'approvisionnement et d'abord de sécurité que leur nombre a nécessairement dû être bien moindre. On observa d'ailleurs que Strabon ne prétend pas fournir un chiffre précis. Il dit seulement des myriades de prisonniers, hein, myriadas andrapodon, ce qui signifie seulement un grand nombre. Cette réserve faite, le commerce des esclaves constitue une réalité sociale et économique que l'on ne saurait méconnaître quand on parcourt les ruines des belles demeures de Delos. La plupart d'entre elles, en effet, furent construites dans cette seconde moitié du IIe siècle par de riches négociants. Bon nombre de ceux-ci étaient originaires de la Méditerranée orientale. On sait que ce sont eux qui ont donné à l'île de Delos son extraordinaire bigarrure ethnique et surtout religieuse. Je n'ai pas l'intention de m'étendre longuement sur cet aspect des choses, qui a fait l'objet de nombreuses études, notamment de la part de Madame Marie-Françoise Baslaise, auteure notamment d'un livre connu sur les conditions de pénétration et de diffusion des religions orientales à Delos, 1977. Tout récemment, dans un ouvrage collectif, il y a beaucoup d'ouvrages collectifs actuellement, paru au début de cette année même, elle est revenue sur ce thème par le biais des associations des associations attestées à Delos depuis les débuts de l'indépendance jusqu'à l'époque de la colonie athénienne, se proposant ainsi d'évaluer les permanences et les changements dans le mouvement associatif au sein de groupes plus ou moins solidement organisés dont les mieux connus sont précisément des associations de négociants venus de la côte phénicienne. À cet égard, en effet, la mainmise athénienne ne doit pas être regardée comme un commencement absolu. Il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé l'auteur le note, de savoir si tel culte étranger, attesté vers 160 dans notre documentation, s'est implanté à Délos seulement ou déjà avant 166. Je m'étonne un peu, d'ailleurs, pour le dire en passant, qu'une spécialiste des choses déliennes s'en tienne toujours à cette date de 166, alors qu'il est désormais hors de doute depuis la publication du décret pour le gymnasiarque Pausanias que les Athéniens prirent possession de l'île dès l'année précédente. Je constate en revanche avec satisfaction qu'elle met des guillemets au terme de clérouque, allant jusqu'à parler de la soi-disant clérouquie. Elle paraît ainsi rejoindre, sans la citer, l'historienne Nicoletta Salomon, et ce n'est pas sans intérêt de la part de quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur les inscriptions de Délos. Quant aux associations elles-mêmes, je n'en dirai ici que quelques mots, car nous verrons tout à l'heure au séminaire, à travers un document exceptionnel, mais qui est encore relativement peu diffusé autrement qu'en grec, comment s'organisait, vers 150 avant Jésus-Christ, l'association des Posidoniastes de Berytos, autrement dit Beyrouth, dont la raison d'être était à la fois, peut-on dire, professionnelle, ethnique et religieuse. Au surplus, des fouilles anciennes remontant au début de l'exploration de l'île par l'école française d'Athènes ont permis non seulement de localiser exactement le siège de l'association, mais d'avoir une idée précise de l'édifice et de son aménagement intérieur, comme le montre cet essai de reconstitution que j'emprunte à la publication de 1921 par Charles Picard, au moment où le décret n'était pas encore connu. Au nombre des nombreuses statues qui ornaient l'espace public, s'en trouve une qui acquit d'emblée une singulière notoriété et qui d'ailleurs eut très rapidement les honneurs du Musée national d'Athènes. C'est le célèbre groupe d'Aphrodite et de Pan, avec un petit Eros au-dessus, reproduit en d'innombrables cartes postales destinées sans doute à émoustiller les touristes. Comme on le voit ici, les photographies ne donnent pas au complet le socle inscrit des deux statues. Même dans le guide de Délos, en ses diverses éditions, ouvrage dont le sérieux ne saurait être mis en doute, la photo est toujours tronquée, comme si la vue de l'inscription devait offusquer le regard. Pourtant, cette inscription de trois lignes est bien intéressante. J'en montre d'abord une photo pour montrer qu'elle est complète, puis le texte que vous lisez en haut. Puisque le dédicant se trouve être un bienfaiteur fort connu de cette association des Posidonias de Berytos. De plus, il s'adresse au dieu de son pays, Theos Patrios, et il le fait pour lui-même et pour ses enfants, ou Perton Technon. Or, il est clair qu'une telle consécration interdit a priori certaines des interprétations esquissées pour expliquer le lien unissant les deux divinités. On exclura ainsi qu'en brandissant sa sandale, la déesse de l'amour ait voulu, telle une courtisane, aguicher le dieu Capripède. Certes, cela ne suffit pas non plus à donner la clé exacte du sujet, mais il faut nécessairement s'orienter vers une interprétation religieuse en lien avec les cultes ancestraux de Berytos. Cette Aphrodite, représentée aux prises avec un être hybride monstrueux, est une Astarté phénicienne, très digne d'être vénérée en public par un honnête père de famille et sa progéniture. On voudrait que toutes les statues de nos musées, si souvent muettes, fussent pourvues d'une inscription telle que celle-ci, ne serait-ce que pour en fixer l'époque à quelques années près. Les Posidoniastes de Berytos ont été ainsi favorisés par la tuquet archéologique. Ce ne fut pas le cas de toutes les associations orientales, tant s'en faut. Par exemple, des Héracléistes de Tyr, la grande métropole de Carthage. On ne connaît qu'un bout des crèches, certes, ici la fin, qui nous apporte pas mal d'informations sur ce koinon, offrant beaucoup de points communs avec celui des Bérytiens. C'était aussi une association religieuse, un thias, placée sous le patronage d'une des grandes divinités phéniciennes, Héraclès égale Melkarth, et ces gens-là étaient aussi des marchands et des armateurs, Emporoi kai Naukleroi. Mais on ne sait rien du lieu de leur réunion, pas même son emplacement approximatif. Le décret n'a pas été découvert in situ. Comme l'observait justement le regretté Philippe Bruneau dans ses magistrales recherches sur les sanctuaires des cultes de Delos, il serait bien imprudent d'inférer de cet état de choses que la dite association avait pu avoir un destin moins brillant que l'autre, ou même, comme on l'a imaginé parfois, que la confrérie des Héracléistes ait pu être absorbée par les Posidoniastes de Berytos au nom de leur commune origine phénicienne. Notre savoir est bien trop tributaire du hasard pour autoriser de telles hypothèses. On peut citer à titre d'exemple un enrichissement relativement récent qui se rapporte également au chapitre des cultes orientaux dans la Délos athénienne. Dans sa thèse de 1970, Bruneau avait présenté avec méthode ce qui était alors connu du culte de Yahvé et d'une présence juive à Délos, essentiellement les restes d'une synagogue. Or, il eut, 10 ans plus tard, la satisfaction intellectuelle de mettre au jour, dans le même quartier de l'île que la synagogue, deux inscriptions tout à fait remarquables qui attestaient l'existence à cette époque d'une communauté se caractérisant elle-même comme israélite de Délos. Mais pas n'importe quels israélites, des gens se réclamant du culte de Garizim, c'est-à-dire du temple situé en Samarie, qui était rival de celui de Jérusalem et fut d'ailleurs détruit en 129, selon la tradition judaïque, dont Flavius Joseph est pour nous le garant, par ce Jean Hyrcan, prince hachmonéen, qui, on s'en souvient peut-être, était entré en contact avec Athènes et en fut même le bienfaiteur, au témoignage d'un décret conservé par le même historien ancien. C'était donc toute une page de l'histoire de la diaspora samaritaine qu'il fallait réécrire à Beauvau, comme le fit Bruneau en un riche mémoire du bulletin de correspondance hellénique de 1982, intitulé avec pertinence, sans trace d'esprit polémique, « Les Israélites de Délos et la juiverie d'Hélienne ». Ces Juifs installés à Délos, qui parlaient et écrivaient le grec, étaient-ils pour autant des hellénistaï, des adeptes d'une vie à la grecque? Fréquentaient-ils le gymnase et le stade au voisinage desquels leur communauté avait son lieu de culte? On ne peut le dire, mais cela pose la question plus générale, par laquelle je conclurai cette leçon. Tous ces étrangers, qu'ils fussent d'origine italique, orientale et d'abord grecque, dans quelle mesure ont-ils participé à l'éducation que les jeunes Athéniens, ceux de bonne famille au moins, recevaient à Délos? Ont-ils été tenus à l'écart ou intégrés? Ont-ils pu, le cas échéant, poursuivre leur formation et renforcer leur intégration en s'installant à Athènes même? Un élément de réponse est fourni par l'examen des documents dits éphébiques. Il est certain que, dès leur installation en 167, les Athéniens instaurèrent dans l'île le système de l'éphébie, dont ils avaient l'habitude depuis 335. Alors que les Déliens de l'indépendance, cela est assuré aujourd'hui par la thèse récente d'André Chankowski, n'avaient pas cru devoir imiter, à la différence de tant d'autres cités hellénistiques, cette institution athénienne, dont ils ne voyaient peut-être pas bien l'utilité pour eux, qui n'avaient point de soldats à former. On s'est parfois étonné, et encore récemment, d'un tel empressement à créer ce doublet, donc en 167, alors que les fils de colons athéniens auraient pu si facilement, nous dit-on, aller se former à Athènes. Mais il y a sans doute quelque anachronisme à croire que les liaisons avec la métropole étaient si aisées que cela. Tout voyage en mer, pour les Grecs, est une aventure que l'on n'entreprend que par nécessité. Donc, il était assez naturel que les Athéniens établissent de manière permanente à Délos. Athénaïoun, oi, katoikountes, en Délo. Eussent à cœur d'avoir non seulement un gymnase, en fait, l'île leur en fournissait un déjà édifié, qu'ils déménagèrent un peu plus tard en autre lieu. Nous avions examiné la chose à travers un document épigraphique l'an dernier, mais aussi de quoi former leur païdès à la vie civique et militaire en les soumettant aux exigences de l'éphébie quand ils arrivaient au terme de leur adolescence, vers 18 ans. Réunis depuis longtemps, les documents éphébiques des liens qui forment un ensemble relativement abondant, mais assez disparate aussi, ont fait l'objet d'un nouvel examen dans la thèse déjà souvent citée d'Éric Perrin-Samina d'ailleurs, « L'éducation à Athènes », qui date de 2006. Or, ils attestent ces documents de manière non douteuse que l'éphébie y fut ouverte très tôt aux étrangers, en tout cas bien plus précocement qu'à Athènes. Il existe même, en rapport avec ce concours, des Romayas que j'avais évoqué précédemment, une dédicace datant de 167-6 déjà, où figure un éphèbe que je ne qualifierais certes pas d'égyptien, comme le fait mon jeune collègue, mais qui était incontestablement un citoyen d'Alexandrie d'Égypte. La présence d'éphèbes non athéniens est confirmée par un catalogue de gymnasiarques de l'année 143-2, mais l'inscription la plus subjective qui se trouve dans votre dossier est une dédicace collective de l'année 126-5 qui fait connaître 18 éphèbes, dont 4 seulement sont des jeunes Athéniens, tandis que les autres viennent d'autres cités de Grèce propre, Caristos, Paros, Corcyre, etc., ou d'Orient, Alexandrie, Antioche, Arados, Sidon, etc., sans oublier un certain nombre de Romaioi. Dès le début donc, l'éphébie d'Hélène, parce qu'elle était peut-être moins orientée vers la formation militaire que celle de la métropole, offre un caractère cosmopolite. À Athènes, en revanche, il faudra attendre l'année 119-8 pour avoir la première mention assurée de Xénoi dans les catalogues éphébiques. Il représente alors, l'autre document attique, un peu moins du 10% de l'effectif global, 17 sur 141. Et l'on constate que leur origine est aussi variée qu'à Délos, Antioche, Berytos, Laodicée, etc. On ne peut certes pas exclure que quelques étrangers aient été admis dans les années 120 déjà, voire un peu plus tôt dans l'éphébie. Mais il paraît assez significatif que l'élargissement se produise de toute façon après le tournant de 146 et très probablement après 130 seulement, quand justement les étrangers, à commencer par les Romains, prennent une place de plus en plus importante à la vie économique, une part plus importante à la vie économique et sociale à Délos. Il y a donc eu comme une espèce de choc en retour des Phéniciens notamment, une famille de négociants de Tyr par exemple, après avoir fait fortune à Délos et obtenu la citoyenneté athénienne, s'installent à Athènes vers 100 avant Jésus-Christ, ils poursuivent leurs activités commerciales. C'est dire qu'à la veille de la terrible guerre mithridatique, les liens entre la population athénienne et celle très bigarrée, très entreprenante, très prospère de l'île colonisée depuis 167 était plus étroit que jamais. Je vous remercie.